Manaono, salam, bienvenue sur Malabar. Je suis Simbach, je suis l'hôte du podcast Malabar. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la vanille de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Montage et réalisation de chaque épisode, Maillé, Rami Prod, je vous mets tous les liens dans les notes de chaque épisode. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Zine, bienvenue sur Malabar, comment vas-tu?
Bonjour Samach, merci pour l'invitation, désolé, c'est un plaisir et je vais très bien, hâte de discuter.
Super. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une de tes deux entreprises, parce que tu m'as dit que tu étais à la tête de deux entreprises, déjà, bravo. Mais avant de parler de Indo Company, j'aimerais que tu te présentes aux auditeurs, donc tu nous dises qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie.
Ok, donc je m'appelle Zine, j'ai bientôt 30 ans, ça commence à faire beaucoup.
Ouf.
Je suis... J'habite à Madagascar depuis 2 ans et en fait, je porte des entreprises qui sont dans l'impact. Donc, Kaki Agency, une agence de com à impact, et Indo Company, dont on va parler aujourd'hui, qui est une entreprise qui travaille sur la collecte et le recyclage de déchets en plastique.
Super. Alors, tu as utilisé le mot impact. C'est un mot qu'on voit partout maintenant. Est-ce que tu pourrais nous le définir? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir une entreprise à impact?
Ah, ça tombe bien. L'entreprise à impact, aujourd'hui, ça se définit comme une entreprise qui a des KPI autres que financiers. Donc, ce qu'on appelle les KPI économiques, on a des KPI sociaux et des KPI environnementaux qui sont soit alignés à des objectifs universels, comme les objectifs du développement durable que les Nations Unies a sortis, soit à des objectifs spécifiques. Tu peux, par exemple, avoir des entreprises qui travaillent le bois, qui font du mobilier, et qui sont en France certifiés FSC, donc forêts protégées, tu vois. L'entreprise d'impact, ça peut être dans tous les domaines. Chaque domaine a ses KPI d'impact spécifiques. Nous, pour notre part, dans nos deux entreprises, on est axé au niveau des ODD parce qu'on n'a pas encore de certification ni de labellisation.
D'accord, d'accord, très bien. Donc, très clair. Donc, aujourd'hui, tu vis à Mada, à Tana. Tu t'y plais?
Je m'y plais. Alors, je m'y plais. Ça fait 2 ans que je suis ici. Je m'y plais. C'est vraiment une belle ville. Ça fait du bien d'être à la maison. Parfois, on se sent un peu moins à la maison, bizarrement. Mais ça fait du bien d'être à Mada. Et comme j'ai l'occasion de sortir un petit peu de Madagascar aussi de temps en temps, ça fait du bien aussi de se ressourcer, d'apporter de nouvelles idées pour le pays.
Alors justement, donc ça fait 2 ans, donc c'est comme si tu avais un regard un peu neuf sur Mada. Avant, tu étais à l'étranger un peu, tu es allé où, tu as fait tes études ailleurs?
Yes, alors j'ai grandi à Mada, j'ai été à Mada, à Tana, jusqu'à mes 17 ans. Et une fois que j'ai eu mon bac, donc je suis parti poursuivre mes études en France. C'était en 2014. Je suis resté 2 ans en Franche-Comté, donc sur la frontière suisse, dans une petite ville qui s'appelle Belfort, et une ville qui me tient toujours à cœur aujourd'hui parce que c'est là où tout a commencé. Et ensuite, je suis monté sur Paris, donc j'ai fait 4 ans et demi, 5 ans à Paris pour la continuité de mon master en entrepreneuriat. Et donc, je suis rentré à Mada en 2021. Mais de 2014 à aujourd'hui, j'ai eu la chance, effectivement, de voyager un petit peu, de découvrir d'autres pays aussi, à part Mada et la France.
Et est-ce que tu estimes que ces expériences à l'étranger, ça t'a appris des choses? Est-ce que ça t'a ouvert l'esprit? Est-ce que tu as été plus curieux? Qu'est-ce que ça t'a apporté de sortir un peu de Madagascar?
Je pense que sortir de Madagascar, c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, hein, honnêtement. Je pense que si je n'étais pas sorti de Madagascar, Je n'aurais jamais compris ce que c'était l'entrepreneuriat. Je n'aurais peut-être jamais osé le faire. Et ce que ça m'a appris surtout, c'est que partout dans le monde, en fait, tout est possible. À Madagascar, on est assez limité sur nos rêves, dans le sens où finalement, on a très peu de secteurs d'activité dans lesquels on peut exercer. On a assez peu de possibilités en termes de formation universitaire, même si depuis ces dernières années, on a beaucoup de nouveaux établissements qui s'ouvrent. On est quand même limité. Et quand on voit, surtout dans les pays avancés, tout ce qui est possible de faire, qu'on a des personnes qui font de leur passion un métier et que ce métier leur permet de vivre très, très, très décemment, on se dit qu'en fait, on peut revenir à Madagascar, penser la même chose et essayer de faire la même chose. Je pense que ça, c'est le plus gros enseignement que les voyages à l'extérieur m'ont donné.
Alors, quand t'es rentré, du coup, j'ai une question pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Quand t'es rentré, t'avais envie de vivre de ta passion, comme tu le dis, de prendre un peu en exemple les gens que t'avais vus à l'extérieur qui pouvaient vivre de leur passion et de vivre très très décemment, ou bien t'avais envie d'apporter quelque chose à Madagascar et de améliorer un peu le système existant, ou les deux.
Wow, très belle question. Alors, la communication ou les déchets en plastique, je t'avoue que c'est pas du tout ma passion. La communication un petit peu parce que je trouve ça fun, mais les déchets en plastique, c'est pas du tout une passion. Les déchets en plastique et la problématique du déchet, c'est quelque chose que j'ai découvert en 2017. Donc j'étais de passage à Mada pendant un cyclone et en fait, il y a eu une polémique parce qu'il y avait plein de bouteilles qui flottaient à Bessarrette. Donc un quartier qui est un petit peu au niveau de la plaine de Tana. Donc quand il y a des montées d'eau, ben c'est là où tout monte. Et tout le quartier était recouvert de bouteilles. Et à l'étranger, on a le tri des déchets. Donc je me suis dit, c'est quand même impressionnant que dans les pays étrangers où les charges sont 15 fois plus élevées que celles à Mada et où la rentabilité est un point clé des activités, ils arrivent à créer des grosses entreprises comme Paprec ou Veolia qui font du recyclage. Donc je me suis dit, ben tiens, un jour j'entrerai à Mada et je le ferai. Et depuis 2017, j'ai essayé de trouver des solutions autour de ça. Et aujourd'hui, j'en suis là. Mais je vais pas dire tout à fait par hasard, mais sans aucune expertise ni expérience sur la partie traitement de déchets ni quoi que ce soit. Je ne suis ni ingénieur en plasturgie, ni ingénieur en pétrochimie, et je n'ai aucune expérience dans l'entreprise de recyclage. Mais je dirais que c'est plutôt répondre à un besoin qui m'avait choqué, un besoin sur lequel, bien sûr, je sais qu'il est possible de vivre et de vivre, de faire vivre ses gens et de grandir, tu vois.
D'accord. Oui. Après, c'est sûr que dans un pays comme Madagascar, le tri des déchets n'était pas existant. Mais en fait, quand tu te rends compte que quand tu sors des pays avancés ou des pays occidentaux, il y a beaucoup de pays où ça n'existe pas. Tu vois, pour le coup, j'ai
Oui.
vécu en Amérique du Sud, j'ai vécu au Chili. 2012-2013, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de. Il n'y a même pas de. Des grosses poubelles, j'ai oublié le nom, mais là où tu
Les
dis
bêtes, non?
les bennes, voilà très bien, les
Non.
bennes, il y en a même pas en fait. Les gens mettent juste
Waouh.
leur sac dans la rue. En tout cas, à cette époque, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé parce que c'était il y a 10 ans maintenant. Mais en fait, des choses minimes qui sont pour nous très basiques, quand tu sors un peu des pays avancés, mais tu te rends compte qu'il y a des choses vraiment qui n'existent pas et qui pourraient changer le quotidien des habitants. Donc là-dessus,
Exactement.
je te rejoins à 100%. Donc du coup, on a déjà un peu parlé de Indo Company, donc on a compris un peu l'historique. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui, combien de personnes vous êtes aujourd'hui, où est-ce que tu opères, pour nous faire un petit peu un historique de l'entreprise et surtout en état actuel?
Bien sûr, avec plaisir. Alors, Indo Company, donc c'est un projet qui a démarré en 2017. Finalement, c'est un projet qui a pris beaucoup plus de temps que prévu à se créer parce que malgré toute la communication et toute la visibilité qu'on a eu avant, l'entreprise elle a été formelle qu'en mars 2023. Donc, ça fait réellement 7 mois qu'on est, 6 mois qu'on est en activité. L'activité, elle consiste d'abord à sensibiliser et à pousser des plaidoyers autour du tri des déchets, notamment les déchets en plastique qui sont parmi les plus polluants et parmi les moins recyclés. Les déchets en métal, c'est facile à recycler et ça vaut beaucoup d'argent, donc ça se collecte au niveau des décharges. Les déchets en papier, c'est quasi biodégradable tout le temps. Et l'organique, ça se décompose et on a déjà quelques solutions aujourd'hui. Donc le plastique, c'est un peu le petit abandonné de la famille des déchets. Une fois qu'on a fait cette communication et cette plaidoyer, soit avec des partenaires entreprises, soit avec des ONG ou des associations, on met en place des collectes. On a plein de systèmes de collecte. Ça va être très compliqué de les expliquer tout cela. Mais on a des systèmes de collecte pour l'ensemble de la société civile. Donc, on en a pour les entreprises, on en a pour les communes, on en a pour les particuliers avec qui on aimerait collaborer beaucoup plus d'ailleurs. Une fois qu'on a collecté les déchets, on a une unité de transformation qui nous permet de les transformer en matière première. Et de cette matière première, on en fait des mobiliers. Donc, on a livré nos premiers mobiliers il y a 2, 3 mois, je pense. Soit des mobiliers design, soit des mobiliers pour les écoles. Donc on essaie aussi d'agir sur les infrastructures d'éducation en Madagascar.
D'accord. Donc, quand tu fais du recyclage des déchets, tu as besoin de l'individu, tu as besoin des habitants de la ville parce que c'est eux aussi qui participent à ça. J'ai vu sur votre site que vous faisiez beaucoup d'activités de sensibilisation avec des journées portes ouvertes, des participations à des opérations de collecte de déchets. Qu'est-ce que vous leur expliquez? Parce que ça, c'est tout nouveau en fait pour eux. J'imagine qu'il faut un peu. Leur expliquer avec des activités ludiques pour que ça leur parle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus?
Le processus. Alors, on a deux processus. On a un premier processus qu'on oriente à une cible qui est un peu plus sensibilisée, qu'on appelle l'atelier des ambassadeurs. C'est des personnes qui savent que le tri des déchets est un souci et qui savent qu'il faut développer le tri des déchets. À ces personnes-là, on leur apprend à devenir en fait ambassadeurs du tri, donc pousser les autres à trier, pousser à collecter au niveau de son ménage, de sa famille, etc., et de faire des dépôts, soit des dépôts au niveau de l'atelier, soit des dépôts dans leur entreprise qui sont pour la plupart nos partenaires chez qui on collecte les déchets. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est au niveau des communes. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. L'incentive et la gamification, donc transformer une activité utile en jeu au niveau des communautés, ça ne les intéresse pas au niveau des communes. Parce que les communes, pour les collectes des déchets, travaillent avec des chiffonniers. Donc c'est des personnes qui sont pas beaucoup rémunérées, qui font du porte-à-porte et que chaque individu rémunère à sa hauteur pour lui faire une activité génératrice de revenus. Et du coup, nous, ce qu'on fait à ce niveau-là, c'est qu'on leur dit, écoutez, ramenez-nous des déchets en plastique, vous les triez, vous les nettoyez, et on vous achète à X arrière le kilo, selon les quantités et selon les besoins. Et en fait, ça les motive suffisamment pour qu'on en ait quasiment tous les jours. Et ça permet aussi de créer des activités génératrices de revenus. Donc en fait, aujourd'hui, on essaie de mettre en place des incentives financières, mais sur le long terme, ce qu'on veut faire, c'est vraiment essayer de créer une activité décente et valorisable autour de la collecte de déchets, qui en fait a une conséquence normale et une conséquence que chacun doit considérer quand il consomme.
Donc là,
Voilà, je pense.
si je comprends bien, là, vous sensibilisez beaucoup les adultes, mais est-ce que vous sensibilisez aussi les enfants et les jeunes?
La sensibilisation des enfants et des jeunes, c'est quelque chose qu'on cible. C'est pour ça qu'on a les journées portes ouvertes. Effectivement, on a fait beaucoup de journées portes ouvertes, mais pour le moment, c'était surtout pour des entreprises. Là, on est en train de lancer une incentive pour pousser les écoles à être partenaires, à mettre en place des bacs à leur niveau et surtout à ramener des enfants de tous les âges. Ça peut être des primaires, ça peut être des lycéens, mais ramener des enfants pour voir ben, qu'est-ce que mon déchet devient. Pourquoi c'est important de collecter? L'avantage, c'est qu'en fait, une fois qu'on arrivera à le faire, et je suis convaincu qu'on y arrivera parce que les gens sont quand même bienveillants à l'égard du tri des déchets. Une fois qu'on arrivera à le faire, les enfants, c'est les meilleurs ambassadeurs. Un parent, c'est quelqu'un qui a une vie, donc il a des habitudes qui ne se changent plus, il a des manières de faire qui sont acquises. Un enfant, en fait, c'est très simple. S'il trouve du sens à quelque chose, surtout si on arrive à rendre ça fun, ça va être naturel pour lui de trier et de faire trier ses amis, etc., etc. Donc l'objectif, c'est de tirer vers ça. Mais
Complètement, oui.
on l'a pas encore. D'ailleurs, petite bouteille au Malabar, si jamais certains sont dans l'éducation ici, ben, venez nous voir avec plaisir.
Ah, on en a une qui est dans l'éducation, on a eu Tina, donc on lui dira, comme ça permettra aussi de voir ensemble comment vous pouvez collaborer, parce que comme je te posais la question parce qu'effectivement les enfants en général dans les écoles, en tout cas en France, je me souviens que tu as beaucoup d'ateliers où on t'explique des choses basiques de la vie, hein, le code de la route, les déchets. Et en fait, effectivement, quand tu rentres à la maison, que tu as eu un petit, je sais pas, un petit jouet ou n'importe quoi qui t'explique de façon ludique, l'enfant est très content de rentrer chez lui et d'expliquer à ses parents, regarde, j'ai compris comment on trie les déchets et pourquoi on trie les déchets. Et du coup, c'est lui qui dira à ses parents, comme tu le disais, voilà, il faut le faire, etc. Donc là, on voit que la collaboration, qui est une de vos valeurs chez Indo Compagnie, en tout cas, elle est bien travaillée. L'autre valeur que j'ai vue, c'était la transparence. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi la transparence est une valeur importante pour votre entreprise?
La transparence est une valeur importante parce que, de toute façon, quand on parle de déchets, ce qui intéresse une personne qui va déposer un déchet, c'est de se dire, bah, où est passé mon déchet? On a eu d'autres, je ne vais pas dire des concurrents, mais des confrères qui travaillaient dans le recyclage à Madagascar, qui collectaient, qui rémunéraient, et en fait, personne ne savait jamais où allaient les déchets, ce qui fait que finalement, les gens ne trouvent pas de valeur à la collecte. Nous, ce qu'on fait, c'est que toutes nos actions sont communiquées sur les réseaux, sur notre site internet, et bientôt on aura un outil digital qui permettra de suivre même en temps réel les collectes, etc. Parce qu'à partir du moment où les gens sont au courant et savent où vont les déchets et ce qu'ils deviennent, ils ont de l'intérêt. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en tant qu'entreprise impact, et là je regarde vraiment globalement la définition d'entreprise à impact. C'est que la transparence, quand on a des partenaires, notamment des grosses entreprises, c'est quelque chose qu'ils vont aller regarder pour se dire, OK, est-ce que tel partenaire est fiable ou pas, et est-ce que les données fournies sont réelles? Par exemple, si je te dis, sur 70 kilos de déchets en plastique recyclés, on fait 230 kilos on a 230 kilos de CO2 non émis. Bah, une entreprise va dire, OK, tu me donnes ça, je le mets dans mon rapport RSE. Pourquoi? Comment tu fais ton calcul? Ça fait un peu plus de 3 fois, et ben là tu dois être capable d'expliquer, de dire ok, en fait c'est du CO2 non émis parce que 70 kilos, si vous produisez ça à partir de plastique brut, c'est 700 kilos de CO2. Le recyclage nous permet d'en faire un petit peu la moitié. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est important pour les partenaires. Et dernier point, c'est la transparence aussi en interne. C'est une valeur que j'aime bien et auquel je crois. La majorité des entreprises à Madagascar sont sur une hiérarchie très très verticale, donc très descendante. Moi, je suis plutôt sur une hiérarchie très horizontale où on essaie de travailler sur la collaboration, sur l'intérêt des uns et des autres à travailler ensemble et sur l'intelligence collective. Donc, si moi je suis transparent sur les objectifs, sur la vision, sur ce qu'on veut faire, sur nos moyens, etc., je sais que mes équipes auront plus de capacité à s'aligner et à proposer des solutions qui sont cohérentes, tu vois. Donc c'est un peu dans tous les sens. C'est pour nous, pour les parties prenantes et pour l'interne.
D'accord, très bien. J'avais juste une question sur une question vraiment de curiosité, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises font très attention à toute leur politique RSE. Les entreprises comme vous, bien sûr, partagent les données pour leur dire, voilà, vous avez économisé tant en recyclant tant, etc. Est-ce que tu penses réellement que ces entreprises, elles le font de bonne foi, c'est-à-dire pour montrer qu'elles participent au développement durable, qu'elles sont dans le recyclage, etc., ou elles le font vraiment juste pour leur communication et pour avoir une bonne image?
Je pense que c'est des deux. Je pense que quand on parle de RSE, il ne faut pas être naïf. Effectivement, aujourd'hui, c'est des besoins. C'est des besoins parce que c'est des demandes de leurs actionnaires, c'est des demandes de leurs certificateurs, c'est des demandes au niveau de l'appel de produits, etc. Je comprends tout à fait. Ça permet de faire avancer leur business. Donc ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, je trouve quand même qu'on commence aussi, même au niveau d'entreprises très polluantes, à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait demain. Et on a parmi nos partenaires des entreprises qui font partie de tes plus polluantes au niveau local. Mais quand tu parles avec eux, quand tu parles avec les décideurs, etc., tu te rends compte qu'en fait, ils sont conscients. C'est leur activité qui les pousse à polluer. Ils sont conscients, au-delà d'avoir du budget RSE, ils ont aussi une réelle envie de s'investir. Parfois, ils investissent même plus que ce qu'ils devraient. Ils viennent sur le terrain, ils vont découvrir avec toi ben, qu'est-ce que tu fais réellement, etc. Ça fait de la com, c'est important pour eux, pour leur business. Mais il y a quand même une réelle envie. Et de toute façon, pour être très honnête, aujourd'hui, sinon on ne se positionnait pas comme un partenaire RSE des entreprises et que les entreprises n'avaient pas besoin de le faire, personne ne paierait pour ce genre de service, tu vois. Ouais. Je pense que la force de notre activité, c'est qu'on a réussi à cumuler un besoin pour les entreprises. Donc, on est un painkiller. Aujourd'hui, on est capable de leur dire, vous avez besoin, au niveau de vos partenaires, de vos actionnaires, de vous positionner sur une activité RSE. Maintenant, on est aussi un candy parce qu'on leur dit, il y a plein d'activités RSE sur Terre, mais nous, on a une très belle pour vous. On collecte vos déchets, on les transforme en table banc pour les écoles. Et après, on va aller ensemble en brousse faire le don des mobiliers scolaires aux enfants et on va voir comment ils vont sourire. Tu vois?
Ah oui, mais là en tant qu'en.
Je ne sais pas à quelle proportion c'est un besoin, et etc.
En tant que décideur d'entreprise, c'est sûr que tu ne peux pas dire non. Surtout si vous, derrière, vous faites de la communication, etc. Si tu recycles les déchets et qu'ensuite c'est pour donner du mobilier à des enfants qui sont dans le besoin, dans la brousse à Madagascar, ah bah c'est sûr qu'ils vont dire oui. T'imagines, la com, c'est génial, l'entreprise est formidable. Après, ce que je voulais savoir aussi, c'était est-ce que les entreprises aujourd'hui à Madagascar, parce qu'aujourd'hui en Occident, on est en plein dans le boom de tout ce qui est RSE, sustainability, toutes les thématiques autour de la parité, les femmes dans les comités de direction, tout ce qui est autour de l'environnement, etc. Est-ce qu'à Madagascar, on est en plein dans le boom? Est-ce qu'on est au début, juste pour se situer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Europe, en tout cas?
Alors, à Madagascar, on est sur, allez, je vais dire, pour simplifier le dessin, on va dire qu'on est sur deux vitesses. Au niveau des très grandes entreprises qui ont soit des actionnaires, soit des partenaires, soit des clients internationaux, eux, ils sont obligés de suivre ce boom-là. Tu vois, par exemple, des succursales d'entreprises françaises qui doivent être aux normes, qui ont des audits tous les 3 mois, etc. Eux, ils sont obligés de suivre ce boom, de s'aligner aux demandes et donc de lancer énormément d'activités RSE avec des budgets qui sont débloqués. Ça, c'est la première vitesse. C'est ceux qui ont les moyens, qui sont déjà grands et qui savent que de toute façon, ils ont l'obligation de le faire. Et la deuxième vitesse, en fait, c'est 95% des activités. Je ne sais pas ce que ça vaut en CA, mais en tout cas, 95% des boîtes qui sont un peu plus petites, ça va être des TPE et des PME, essaient de l'inclure dans leur processus, que ce soit des processus de production, des processus de vente, etc., mais vont toujours prioriser la solution la moins chère. Je vais donner un exemple. Si on a une entreprise qui est dans l'agriculture, qui fait de la transfo et qui, à partir de la transfo, a des résidus, au lieu de les vendre aujourd'hui, ils auraient, s'ils en trouvent quelconque rentabilité, ils vont aller faire du compost. Ils vont positionner ça comme une activité RSE. Tu vois? Et après, tu as quand même, allez, j'ai quand même rajouté une troisième vitesse, des entreprises qui ne sont pas du tout touchées par ces sujets-là, dont l'activité même ne peut pas vraiment être raisonnée et qui pourtant valent une grosse part du besoin et des services à Madagascar, notamment la logistique, par exemple, tu vois. Aujourd'hui, Madagascar dépend énormément du transport par camion, qui est un énorme pollueur dans le monde entier. Mais finalement, on n'a pas la solution ferroviaire pour aller mutualiser. On n'a pas la solution de camions électriques. Et même en Europe, c'est pas déployé. Même Tesla a du mal à les déployer. Donc finalement, leur activité en soi est déjà tellement polluante et ils ont pas de solution. Donc ils sont obligés de rester sur ce volet-là. Mais la fame de la sustainability commence quand même à arriver à Madagascar. Et c'est bien de se positionner parmi les premiers. On n'est pas du tout les premiers. Il y a plein de belles activités, de grosses activités qui font ça et qui le font très très bien. Mais c'est bien de se positionner en tant que précurseur parce que nous, comme on a la force de la communication de l'agence de com qui est derrière et qui finance l'activité de notre compagnie, ben en fait, on arrive à toucher des gens, on arrive à changer des mentalités, on arrive aussi à changer des politiques d'entreprise. Et ça se fera sur le long terme. Et peut-être qu'au-delà de parler d'un besoin, on parlera d'un intérêt pour les collectivités, d'un intérêt pour la société, d'un intérêt pour son environnement, parce que finalement, ils polluent dedans, mais ils vivent dedans aussi. Et on verra ce que ça va être dans 10 ou 15 ans.
Du coup, tu as créé deux boîtes qui sont complémentaires.
Exactement, c'est deux boîtes qui sont complémentaires. À la base, Kaki Agency, je l'avais vraiment créé pour avoir une entreprise qui me permette de générer des revenus pour un de compagnie. Et au final, dans le travail, je me suis rendu compte que Kaki Agency, quand on a commencé à l'orienter développement durable, arrivait à trouver des clients qui sont des potentiels clients d'un de compagnie. Et on a appris à communiquer pour eux, on a appris à communiquer pour ces entreprises qui ont de la RSE ou qui ont même des activités à très forte valeur sociale et environnementale. Et ça nous a permis aussi de réorienter énormément de choses sur Indocompany, de choisir nos activités clés, de choisir notre thèse d'impact, de voir comment on allait mitiguer des risques comme le risque social sur les salaires, comme le risque environnemental avec le processus de recyclage. Tout ça, on l'a appris, on a regardé ça au niveau des clients de Kakadens, si tu vois. Donc c'est vraiment deux boîtes qui au final, un jour, pourraient former une seule et unique très grosse boîte. Tu vois ce que je veux dire?
C'est ton ambition dans
Mais ce n'était
le...
pas prévu.
Ah, c'était pas prévu. D'accord.
Je ne sais pas si c'est mon ambition aujourd'hui. C'était pas prévu comme ça, et au final, ça s'est construit comme ça, et je trouve que c'est très bien aujourd'hui parce que finalement, même les équipes des deux entreprises s'entendent bien, il y a des visions qui sont communes, tu vois. Donc c'est pas mal.
Alors, tu disais au début que t'étais pas un passionné du recyclage. Si tu l'avais pas dit au début, et que tu nous aurais parlé de Indo Company comme ça, tu vois, on aurait eu du mal à te croire, parce que on a l'impression que maintenant tu en parles, que, enfin, t'es, en tout cas, ça te plaît de partager l'histoire. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quoi ressemble ton quotidien, parce que tu as quand même deux boîtes à gérer, qui sont, même si elles sont complémentaires, c'est sur deux environnements, dans deux environnements différents, avec deux équipes peut-être différentes. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton quotidien, des missions que tu fais, à quoi ressemble ta journée?
À quoi ressemble ma journée? Ben, j'ai pas de journée type. Toutes mes journées sont très différentes. En tout cas, ben, je suis pas un lève-tôt. Je me lève à 7 heures. Et 7 heures à Madagascar, c'est
Ouh, c'est
déjà plein
tard!
soleil. Je me lève à 7 heures. Je commence à m'installer sur mon ordinateur à 7h30. Donc, oui, à Madagascar, c'est super tard, hein. Si, tu verras dans les commentaires si on a une case commentaire sur certains lecteurs, mais à Mada, 7h, c'est tard. Les gens, ils se relèvent à 5h30, 6h. Donc, je me lève à 7h. Je me mets sur mon ordi à 7h30. Là, je fais toutes mes missions qui ne concernent que moi. Je ne fais pas de validation de mail, je ne fais pas de lecture de messages sur WhatsApp, ni rien du tout. Et je fais ça jusqu'à 9h, 9h30. J'arrive au bureau à partir de 10h. Donc là, je fais tout ce que j'appelle les activités team. Donc là, je vois un petit peu mes équipes. Sachant que les équipes dans la compagnie de Kaki Agency sont dans les mêmes locaux, les équipes administratives. En tout cas, de 10h à 13h, le plus souvent, je suis au bureau. Donc là, je suis avec mon équipe. À 13h, ils vont déjeuner. Moi, à 13h, c'est le moment où je commence à partir en réunion. Et je fais mes réunions le plus souvent entre 13h et 17h. J'aime bien l'après-midi parce que le matin, je suis trop concentré. Et ensuite, à 17h, je reviens au bureau. Donc je reste au bureau de les 17h jusqu'à 20h, 20h30. Et après, j'arrive chez moi à 21h. Et après, je me repose sur mon ordi jusqu'à 23h30, minuit, on va dire.
Ah oui, c'est un programme,
Donc,
c'est une journée bien, bien, bien chargée.
une journée bien, bien, bien chargée. Maintenant, il y a des jours où c'est vraiment très, très chargé, où tu vois, j'ai plein de choses stratégiques le matin. Après, au niveau des équipes, il y a plein de choses à valider. Après, mes réunions sont pas forcément agréables parce que parfois c'est des réunions un petit peu chiantes, tu vois. Et après, je reviens en bureau et là, je dois encore me reconcentrer sur les trucs du matin que j'ai pas fini. Ça, c'est les journées chiantes. Après, il y a des journées super cool, du genre, on a un client qui veut aller équiper X école. Donc, l'après-midi, lors de ma réunion, je vais à une visite de PP ou de CEG. Je rencontre des enfants, c'est ce que je veux dire. Ou ça peut être autre chose du genre, là, un de nos compagnons accompagné dans deux programmes d'accélération, Mère Digitale avec le PIC et la Banque Mondiale, où on est incubé chez Nexta, et MITIR avec Miracap et l'USAID. Et avec eux, on a aussi des activités, on a des formations, on a des copiles, on a des réunions ultra stratégiques qui vont vraiment sur du travail de fond. Et là, ça te bouge tellement les méninges parce qu'en fait, à la fin de la journée, tu te dis, mais j'ai pas fini, c'était trop bien, tu vois. Donc c'est lourd, mais en fait, moi, je le sens pas comme quelque chose de tout super chiant. J'adore mon taf. Je fais ça du lundi au samedi, voire le dimanche. Je considère pas ça comme un travail ou une contrainte ou quoi que ce soit. Je considère ça comme un quotidien normal de ma vie, tu vois.
Est-ce que c'est aussi peut-être l'image de l'entrepreneuriat que les gens comme moi qui ne sont pas entrepreneurs ont, c'est-à-dire que tu travailles énormément, mais qu'à côté tu fais des choses qui te passionnent?
Oui, c'est vrai. Dit comme ça, effectivement. Maintenant que je m'écoute parler, tu as raison. Peut-être que, en fait, je suis passionné par. Je ne suis pas passionné par les déchets. Je suis passionné par mon travail. Est-ce que mes équipes et les entreprises arrivent à faire avec ce qu'on a, tu vois? Et ça, tous les matins, je suis reconnaissant envers les équipes, je suis reconnaissant envers nos partenaires qui nous font confiance, que ce soit sur le Kaki ou Andao. Est-ce que ça nous permet de vivre tout ça?
Et est-ce que tu as des... comment tu fais pour rester toujours motivé? Parce que c'est quand même un quotidien assez intense. Tu disais que tu pouvais travailler du lundi au samedi, voire du lundi au dimanche. Donc ça veut dire que c'est presque non-stop. Comment tu fais pour garder cette énergie et rester motivé tout le temps?
Très bonne question. En fait, je ne le suis pas forcément, hein. Il y a des semaines où c'est trop bien, où tu te sens serein et tu te dis waouh, tout glisse. Et puis il y a des semaines où tu te dis comment je paie les charges. On a un problème avec tel client, mais je ne sais pas comment le régler. On est en retard sur tel livrable. Il y a un machin qui est malade, donc il y en aurait maladie pour 2 jours. Ça fait partie du quotidien, je pense. Je pense que la vie d'entrepreneur, en fait, c'est comme toutes les vies. C'est qu'au final, tu as un cadre qui est bien, mais en fait, t'as toujours des super hauts et des super bas. Je pense que le plus dur sur la motivation, c'est quand t'as l'impression de ne pas avancer. Et ça, je l'ai déjà vécu. T'as l'impression que tout stagne, que tu es en attente de plein de choses, mais que finalement tu n'as plus le contrôle sur ces choses-là. Et pourtant, tous les jours, tu dois assurer le paiement des charges, tu dois assurer les salaires, tu dois être là, tu dois être celui qui est le plus motivé, parce que si tu te démotives, ton équipe va se dire, mais en fait, il s'est dégonflé. Ça fait partie du quotidien et parfois, il faut juste accepter d'être down et de se dire, bon, bah, j'arrête un petit peu, j'arrête de travailler, je transmets ça à machin, j'espère qu'il va le régler, ou tu dis, je laisse ça, je ferme mon ordinateur, je fais autre chose. Je vais marcher, je vais écouter des podcasts, je vais écouter de la musique, je vais sortir un petit peu et je me remettrai quand j'en aurai envie.
Et c'est là, c'est exactement ce que j'allais te demander, parce que quand tu es entrepreneur à ton compte, ça va. Si tu as des moments où tu es un peu down, bah c'est pas grave, il n'y a que toi qui le vois. Mais toi, justement, tu as des équipes à gérer. Ma première question, c'est comment tu fais déjà pour leur transmettre cette envie, cette motivation? J'imagine que ça se fait d'abord au recrutement, mais après, il y a aussi pendant la phase où ça y est, ils sont embauchés et qu'ils comprennent leur mission et qu'ils soient toujours à 100%. Déjà, comment tu fais pour transmettre ça? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tout est à construire. Donc, même ton branding au niveau interne, toutes les valeurs, ça se fait, j'imagine, un peu avec eux. Donc, ils participent un peu au projet avec toi. Et la deuxième question, quel est ton. Toi, en tant que manager, comment tu es avec eux pour continuer justement à transmettre tout ça?
Super bonne question. Alors, premièrement, comment on transmet les valeurs et comment on transmet la motivation? Je pense que, en fait, il y a plusieurs types de collaborateurs. Je pense que chaque collaborateur est unique, mais j'ai remarqué qu'il y en a qui adhèrent et qui vont être des ambassadeurs, notamment les plus anciens, tu vois. C'est vraiment des ambassadeurs qui comprennent ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là tous les jours. Et ils sont un petit peu moteurs de la motivation et de la transmission des valeurs. Tu as ceux qui viennent d'arriver, mais qui comprennent très bien ce qu'on fait. Et du coup, qui arrivent très vite à rentrer dans le moule. Et puis, tu as ceux qui ne comprennent pas vraiment pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on fait là, etc. Et eux, en fait, il faut leur montrer des réalisations. Il faut leur dire, par exemple, tiens, je te laisse faire ça. Une fois qu'ils ont fait ça, moi j'aime bien dire, regarde, ok, on a fini ça. En fait, ce que tu as fait là, ça a permis ça. Et ça a permis ça. Et ça a permis ça. Et ça, c'est un vecteur de motivation parce que du coup, ils se disent, ok, en fait, mon travail, même si je simplifie au maximum, mais même si je coche une case, en fait, cette case cochée, une fois qu'elle arrive quelque part, elle devient quelque chose de réel, de palpable et qui a du sens pour des gens, tu vois. Typiquement, au niveau des ouvriers de l'atelier, au début, ils comprenaient pas trop pourquoi ils faisaient ça, pourquoi ça prenait autant de temps, pourquoi aller collecter des déchets alors que finalement on pourrait importer de la résine. Et en fait, au final, une fois on a fait une installation, on était ensemble, il a dit en tête, il a dit, ah mais en fait, ce qu'on arrive à faire, c'est quand même très joli. Je me suis dit, ben oui, c'est pour ça que tu le fais. Elle a rigolé, tu vois, mais elle a compris. Et la deuxième question sur comment je suis avec les équipes. Comme je te dis, on est sur une hiérarchie, sur l'ensemble des activités. On est sur une hiérarchie qui est très horizontale, qui commence à moins fonctionner aujourd'hui parce qu'on est assez nombreux. On est vraiment dans la restructuration de ça, mais. Dans la structure actuelle, tout le monde peut se référer à moi. Tout le monde peut me poser des questions. Tout le monde peut me faire un WhatsApp. Tout le monde peut m'appeler à n'importe quel moment, etc. Et du coup, on est sur un management et sur un, je vais pas dire management, j'aime pas. J'essaie vraiment de, tu sais, quand tu vois les caricatures de manager et de leader. J'essaie vraiment de me positionner en tant que leader, mais un leader unique pour chacun. Donc de comprendre chacun, d'aller pousser chacun dans le sens dont il a besoin d'être poussé, etc. Et jusque-là, ça allait bien. Maintenant, comme je l'ai dit, maintenant, je pense qu'on est trop nombreux. Et finalement, ça prend énormément de temps. Donc, on est en train de voir justement avec l'équipe, on a fait trois propositions de réorganisation. Et cet après-midi, on a une réunion pour voter, ben, quelle réorganisation on va garder. Donc, qui sera manager de qui, etc. Finalement, au final, on va presque revenir à une structure classique, mais finalement, c'est eux qui vont choisir.
C'est
Et après, on verra comment ça gère.
exactement ce que j'allais te dire, parce qu'au début, tu disais qu'à Madagascar, on est beaucoup sur des modèles, sur un modèle très vertical, très hiérarchisé. Mais que finalement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, quand ils commencent, ils disent non, moi, je veux que ce soit vraiment horizontal, que chacun ait son mot à dire, etc. Mais en fait, finalement, tu te rends compte que plus tu grossis, moins tu peux le faire parce que moins tu as de temps. Et peut-être, est-ce que tu as moins envie aussi de te concentrer peut-être moins sur l'humain et plus sur les projets?
Une super bonne question. Alors, me concentrer sur l'humain, donc c'est quelque chose que je ne veux pas forcément lâcher. Les recrutements, tu vois, par exemple, typiquement, nous, tous nos recrutements passent par une agence et après, il y a quelqu'un en interne qui fait les entretiens. Mais moi, j'ai toujours le dernier mot sur les recrutements. Même si, au niveau de l'équipe, ben, tout le monde peut commenter un CV qui arrive. Je dis, c'est un peu cruel, mais il y en a quelqu'un qui va potentiellement arriver chez nous. Le CV, il est diffusé à tout le monde et puis tout le monde peut dire, ah, ça, c'est intéressant ou pas, tu vois. Donc l'humain, il est quand même important pour moi. Maintenant, je pense que j'abandonne l'humain, pas parce que j'en ai marre et que j'ai envie de passer à des choses plus essentielles, mais plutôt parce que c'est un besoin des entreprises que je passe à quelque chose de plus essentiel, tu vois. Je dois faire beaucoup plus de... Je dois être beaucoup plus visible, donc je suis invité à des événements, je sais que je dois y aller, je dois être beaucoup plus stratégique, donc je sais que sur des discussions avec nos accompagnateurs, que ce soit Nexta ou Miracap, etc., je sais que je dois être là. Sur des réunions avec des mentors, je sais que je dois être là. Sur des visites chez des partenaires, je sais que je dois être là. Donc, c'est des moments qui sont pas forcément plus importants que de passer du temps avec son équipe, mais qui, sur le long terme, ont plus d'impact positif sur l'ensemble que d'aller faire du micromanagement, tu vois. Et j'ai aussi peur de ça, que le fait que je ne sois pas là et pourtant que je valide parfois certaines choses sur lesquelles je n'étais pas présente, soit assimilée à du micromanagement. C'est aussi pour ça qu'on change d'organisation. Je ne veux pas de micromanagement, je trouve que c'est contre-productif, c'est démotivant, et puis ça apporte aucune valeur de dire non, ça c'est moche, alors que finalement, j'étais même pas là pendant l'élaboration du cahier des charges du projet, tu vois.
D'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord, c'est très intéressant. Très bien, bah écoute, merci,
J'espère
merci.
que j'ai répondu à la question.
Ah oui, tu as très bien répondu à la question. Le plus important pour moi, c'est de comprendre aussi, tu vois, parce que quand on est entrepreneur, moi je suis pas entrepreneur, Malabar, c'est ce que je fais à côté de mon travail. Et en fait, j'ai toujours cette, comme beaucoup d'auditeurs, j'ai beaucoup cette vision de l'entrepreneuriat où au début tu commences, c'est merveilleux, tu fais quelque chose qui va soit changer le monde, soit changer ta vie parce que c'est ta passion, tu vas te lancer dedans à 100%. Tu voudrais être quelqu'un vraiment d'accessible, tu vois, tu vas commencer à monter des équipes où tu vas toujours dire oui, je suis hyper dispo, puis en fait, tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, bah, la réalité te rattrape et si tu veux te concentrer sur ton projet comme tu l'as fait au tout début quand tu étais tout seul, ces gens-là, faut qu'il y ait quelqu'un qui les manage. Après, sur l'idée de vouloir toujours avoir une hiérarchie verticale ou horizontale, ça, c'est quelque chose dont on parle tout le temps. Moi, je travaille en ce moment dans une entreprise qui est dans les RH. C'est quelque chose dont on parle tout le temps de pas faire un modèle vertical mais horizontal où chacun a son mot, où tu as des programmes de speak-up et compagnie. Moi, très honnêtement, je pense que c'est juste pour l'image de marque en interne. Et je pense qu'en réalité, le meilleur modèle, c'est toujours le modèle vertical parce que quand tu entres dans une boîte, t'as beau dire ce que tu veux, si c'est pas la tienne, t'y vas pour ton salaire. T'y vas parce qu'à la fin, t'es payé. Donc, au final, tu auras toujours besoin d'avoir un supérieur qui te dise ce que tu fais, c'est bien, ce que tu fais, c'est pas bien. Attention, c'est mon opinion très personnelle, hein. C'est ce que je pense. Après, peut-être que j'ai tort, hein. Mais je pense que tant que tu montes pas ta boîte et tant que tu travailles chez quelqu'un, tu pourras pas être aussi investi que si c'était ta boîte. Tu vois.
Oui. Je suis quasiment d'accord avec toi parce que là, je me rends compte, par exemple, tu vois que dans l'entreprise, il y a des profils avec qui j'interagis. Mais ce n'est pas pour être méchant ni parce que je les néglige, tu vois, mais c'est qu'au final, je n'ai pas l'occasion d'interagir avec eux. J'ai des membres de mon équipe que je croise tous les jours, à qui je dis bonjour, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y a des semaines où je ne leur dis que bonjour et au revoir, tu vois. Mais ce n'est pas méchant. C'est pas mal intentionné, c'est juste qu'en fait, par exemple, leur mission, je sais exactement ce qu'ils font, je sais à qui ils livrent, je sais par exemple qu'un chef de projet va aller le voir à un moment, tu vois ce que je veux dire? Et au final, ça devient naturellement hiérarchisé pour que ce soit le plus optimal possible. Mais j'aimerais quand même, j'ai envie de trouver l'équilibre entre hiérarchisé avec des managers, etc., et en même temps, ouvert et ouvert à l'opportunité, à la créativité individuelle. Mais je ne sais pas encore comment le faire.
Ça, c'est parce que
Donc pour le moment,
c'est dû à
c'est très
ton
compliqué.
âge avec le conflit intergénérationnel. On est dans une génération millennials ou génération Z. On ne veut pas le modèle de nos parents, c'est-à-dire d'avoir l'idée le chef, c'est le chef, tu vois, c'est le patron, etc. Mais en même temps, sur le terrain, on se rend compte que y en a besoin. Donc effectivement, je comprends ton conflit, mais tu vas le résoudre très vite parce que cet après-midi, tu auras ta réunion et tu vas choisir le modèle qui
Oui.
conviendra le mieux et tu me diras du coup lequel tu as choisi.
Mais après, c'est la deuxième réunion. Alors, pour te dire, juste pour arrondir un petit peu, on en a déjà fait une première réunion avant les recrutements parce que là, on a une grosse vague de recrutement. On avait décidé d'un modèle qu'on n'avait pas totalement procéduré, mis en place en interne et communiqué. Finalement, il s'en est un peu allé tout seul. Et là, du coup, ça sera aussi l'occasion de remettre un petit peu en place et de voir concrètement, comment on le met en place, qui porte quoi, etc. Tu vois. Et en fait, depuis un moment, je m'intéresse un petit peu à la conduite du changement et au lean management que j'ai découvert il y a pas longtemps. Enfin, j'avais découvert à l'école en mode, OK, on doit l'apprendre, je l'ai appris. Mais là, récemment, je l'ai découvert en utilisation en entreprise en tant qu'entrepreneur. Et en fait, ça va prendre énormément de temps, tu vois. Et en parallèle, on a d'autres recrutements. C'est les challenges du quotidien d'entrepreneur en fait. C'est des casse-têtes comme ça où tu te dis, qu'est-ce que c'est long quand même, mais qu'est-ce que c'est fun.
Mais tant que c'est fun, c'est bien. Du coup, ça te plaît et c'est ça qui est le plus important. Merci beaucoup, Zine, pour ton
Exactement.
témoignage. Avant de terminer, je vais te poser quelques petites questions. Peut-être quelques questions d'ordre personnel sur ton lien avec Madagascar. Est-ce que tu es prêt?
Yes. Oui.
Quel est ton lieu préféré à Madagascar?
Mon lieu préféré. Là, instinctivement, je dirais Fort Dauphin. Fort Dauphin, c'est un lieu que j'ai découvert l'année dernière parce que quelqu'un m'a conseillé d'y aller. Et je trouve que c'est super beau. T'as les montagnes, t'as la verdure, t'as la plage. La plage, elle est trop belle. Et t'as l'impression d'être à Rio de Janeiro, mais sans les immeubles. Et je trouve ça trop beau.
Très bien, ton plat malgache préféré.
Mon plat malgache préféré, je dirais, c'est le kabar saucisse.
Ah, on
Je
me l'a
sais pas
jamais
si je
sorti.
vais traduire pour les noms malgaches. C'est vrai? Ah,
Ah, on me l'a
j'aime
jamais
trop.
sorti.
C'est du poids du Cap avec des saucisses de porc. C'est tellement bon. Mais large. Mon favori large.
D'accord. Ton meilleur souvenir à Madagascar?
Mon meilleur souvenir à Madagascar. Je pense que mon meilleur souvenir à Madagascar, c'est la première fois où je suis revenu. C'était en 2015. J'ai fait un an en France et puis je suis revenu pour 3 mois à Mada. Et en fait, dès que j'ai foulé la piste Tivat, mais je te jure, c'est incroyable. Je sais pas si d'autres qui sont venus ont eu la même émotion, mais en fait, dès que tu reviens à Madagascar, t'as l'impression que t'étais jamais parti et que tu as toujours été là et que c'est là que tu dois être. Et j'ai trop aimé cette sensation. Et à chaque fois que je reviens à Madagascar, je suis trop content de me dire, purée, c'est bon, je suis de nouveau là, tu vois.
C'est beau, c'est beau. Un mot ou une expression qui, pour toi, résume très bien Madagascar?
Moi, une expression. Ah, je suis pas pessimiste, mais c'est un peu péjoratif, c'est mour à mour. Tout est lent, c'est incroyable. En fait, tout est lent et j'ai l'impression de faire partie du système maintenant, tu vois, donc c'est encore pire, mais les choses prennent du temps. Les gens ne sont pas pressés les gens ne sont pas pressés au changement. Et quand tu tentes de changer les choses, il met du temps à le mettre en place. Et je sais pas, c'est vraiment mour amour. Tout est vraiment mour amour, que ce soit administratif, que ce soit au niveau des projets, que ce soit au travail, que ce soit tes partenaires. Il faut être super patient, super, super patient. Il faut toujours caresser les gens dans le sens du poil, sinon ils restent mour amour.
Très bien. Et pour terminer, est-ce que tu as un message à délivrer aux auditeurs de Malabar?
Un message à délivrer aux auditeurs. Enfin, je dirais, si vous avez des idées pour Madagascar, arrêtez de réfléchir. Je pense que quand on a une idée, c'est un peu méchant, mais en fait, une idée, ça vaut zéro parce que tout le monde a la même idée. C'est celui qui va se lancer qui l'aura fait. C'est lui qu'on verra. Donc, si vous avez des idées, venez faire des choses. Madagascar est devenu beaucoup plus accueillant et beaucoup plus hospitalier pour les entrepreneurs et pour le projet que ce qu'on vous dira toujours, surtout quand vous êtes à l'étranger. Et que ce que ça a été avant. Moi, je suis parti en 2014, je suis revenu en 2021, et honnêtement, Madagascar n'avait rien à voir. Même ma vision entre le Madagascar de 2014, quand j'ai grandi et fini mon lycée, et le jour où je suis venu et je me suis dit, je suis entreprendre, ça a rien à voir. Donc, venez. Venez, on va changer ça tous ensemble.
Super. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Zine, pour ton témoignage et on te souhaite une très bonne continuation.
Merci beaucoup, Samuel, c'était avec plaisir.
L'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Malabar, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une aventure à travers Madagascar. Ce podcast, c'est également le vôtre. Alors si vous souhaitez partager votre histoire ou si vous connaissez quelqu'un qui mérite d'être entendu, n'hésitez pas à nous contacter sur malabar.fr ou sur LinkedIn, Simbach Rapéfarnouch. Ensemble, continuons à explorer les joyaux cachés de Madagascar. Amanarakanjeo, velum!